Vous écoutez bien RFI, il est 19h30 à Paris, 17h30 en temps universel.
Le débat du jour. Diane Berger.
10 000 personnes dont le pays est condamné, englouti d'ici 2100 par la montée des eaux. Aux îles Tuvalu, dans le Pacifique, le tiers des habitants a d'ores et déjà demandé un visa pour l'Australie. 280 bénéficiaires seront tirés au sort cette année. Le changement climatique rend de nombreux territoires dans le monde de plus en plus inhospitaliers. Faut-il dès lors créer un statut spécifique de réfugié climatique? Quel dispositif existe pour la prise en charge de ces déplacés? Et alors que parfois leurs propres états sont menacés de disparition, qui est responsable de leur situation?
RFI.
Réfugiés climatiques, le droit international est-il prêt pour leur accueil? C'est le thème du débat du jour ce mercredi sur RFI. Et nos invités pour en parler en studio avec nous, Baptiste Filloux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef de pôle campagne et plaidoyer solidarité internationale chez l'ONG Oxfam. Nous sommes également en ligne avec Dina Ionesco. Bonsoir Dina Ionesco.
Oui, bonsoir.
Vous travaillez pour l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Vous êtes spécialiste des questions de l'asile, de la migration et du changement climatique et co-autrice du premier atlas des migrations environnementales aux presses de Sciences Po. Et puis en ligne également avec nous, Thibaut Fleury-Graff. Bonsoir.
Bonsoir madame.
Vous êtes professeur de droit public à l'université Panthéon Assas. Et donc ensemble, nous allons réfléchir au statut des réfugiés climatiques, aux questions légales qui entourent leur situation. Et je vais d'abord me tourner vers vous, Baptiste Filloux. Cet accord Tuvalu-Australie que l'on évoquait il y a quelques instants, c'est le premier du genre dans le monde, un accord bilatéral qui permet donc à chaque année à 280 citoyens des Tuvalu de partir vers l'Australie. Est-ce qu'on peut se réjouir d'un tel accord? Est-ce que c'est une solution?
Écoutez, c'est d'abord quelque chose qui doit nous alerter parce que on ne peut pas se contenter en fait d'en arriver là. À partir du moment où il y a des personnes qui se sentent déjà en détresse et qui ont besoin de demander asile ailleurs, eh bien ça veut dire qu'on a échoué en termes d'atténuation du changement climatique. Et puis là, on est forcé de constater que cette adaptation ultime, eh bien, nous tombe dessus en fait.
Et donc elle nous tombe dessus, et derrière, est-ce que cette voie par des accords bilatéraux d'envoyer petit à petit des vagues de citoyens dans un autre pays en préparant cela autant que possible, est-ce que c'est une solution dont on peut se satisfaire?
Alors,
sur un plan humanitaire notamment.
Sûrement pas, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le droit international et vos autres invités pourront développer ça abondamment, aujourd'hui n'est pas structuré pour répondre à de tels mouvements et de telles détresses. Et d'autre part, une réponse humanitaire, comme je vous le disais, c'est d'abord le constat d'un échec. Ensuite, à partir du moment où on ne fait que des accords bilatéraux, eh bien, si vous voulez, il n'y a pas réellement de statut qui est développé, il n'y a pas vraiment de prise en charge globale, et on sait bien que ce qui peut fonctionner, ce sont en général des accords contraignants et multilatéraux.
Oui, et là d'autant plus dans le cas de l'accord entre l'Australie et le Tuvalu, l'Australie a négocié en échange un droit de veto sur des questions de sécurité, sur des éventuels partenariats des Tuvalu avec d'autres pays de la région. Alors là, en fait, c'est en toile de fond, c'est là aussi contrer l'influence chinoise dans le Pacifique, qui est encore un autre sujet, mais il y a aussi un risque avec les accords bilatéraux de dérive de la part des pays d'accueil.
Mais c'est surtout que ça pose la question de l'existence même d'un pays qui est voué à disparaître. Et finalement, si on n'arrive pas à protéger les populations pour qu'elles puissent s'auto-organiser, eh bien on a perdu.
Et Dina Ionesco, vous qui travaillez pour le HCR, on le sait, il y a des cas où on peut anticiper un minimum des catastrophes climatiques. Dans le cas des îles Tuvalu, on a en quelque sorte une marge de manœuvre, même si, effectivement, comme l'expliquait Baptiste Filloux, c'est aussi le constat d'un échec. Mais en tout cas, on sait que la mer monte, qu'on a un certain nombre de décennies avant que le territoire soit complètement inhabitable, ce qui laisse une capacité à anticiper. Mais est-ce qu'on arrive à anticiper à chaque fois ces mouvements de déplacés qui vont être inévitables?
Alors, je pense qu'il faut avant tout repenser un peu cet accord dans son cadre sur le long terme. Le Tuvalu a demandé en fait depuis très longtemps à ce qu'il y ait une ouverture de voie en fait d'admission régulière pour ses ressortissants aussi dans le cadre de cette prise de conscience du changement climatique. Mais ce qui est très intéressant par rapport à ce nouvel accord et à ce visa dont on parle aujourd'hui, c'est que finalement, il ne s'agit pas vraiment d'un statut qui soit du domaine de l'asile et du domaine du droit de réfugié, mais plutôt c'est un visa. C'est un visa qui est à la fois un visa pour étudier, pour travailler, pour vivre. C'est un visa qui est même ouvert aux personnes avec handicap. Il a une dimension à la fois humanitaire, de développement. Et ce qui est passionnant avec ce visa, c'est qu'en effet, il se place dans une vision presque de menace existentielle posée par le changement climatique pour certains petits États insulaires, mais en même temps, face à ça, le visa ne parle pas du changement climatique. Donc, oui. En fait, ça inscrit ce mouvement dans une vision plutôt de la migration, une vision qui est circulaire et aussi une vision qui lie le développement. Donc, c'est très important de mettre en perspective cela avec la dimension du cadre international et de la protection pour les réfugiés. Le statut de réfugié climatique, pour l'instant, il n'existe pas en tant que tel. Le statut de réfugié implique une forme de persécution, traverser une frontière. Le réfugié ne peut pas retourner chez lui. Donc, ce n'est pas exactement ce dont on parle dans le cadre du visa avec Tuvalu et Australie. Et je pense qu'il est vraiment central de revenir à cette vision très large de la mobilité afin de mettre cet accord dans une sorte de boîte à outils de plein de politiques différentes de la mobilité, dont l'asile et le droit des réfugiés fait partie.
Oui, justement, vous l'évoquiez, avec un statut de réfugié, on acte qu'une personne ne peut pas rentrer chez elle. Pour l'instant, les habitants des Tuvalu peuvent encore retourner chez eux s'ils émigrent en Australie, mais d'ici quelques années, quelques décennies, ce sera invivable, parce que même si l'archipel ne sera pas tout de suite englouti, le territoire ne sera plus fertile, le sel aura trop dévoré les quelques terres agricoles. On est sur une situation où bientôt ces personnes ne seront plus en mesure de rentrer chez elles. Est-ce que dès lors, le fait que ce soit juste un visa et pas un statut de réfugié, cela peut poser un problème?
Oui. Mais alors, il faut regarder combien c'est complexe, en fait, de créer un nouveau statut de réfugié en lien avec le changement climatique. C'est très compliqué parce que d'abord, il faut isoler les facteurs du changement climatique, ce qui est extrêmement difficile. Ensuite, il faut regarder, par exemple, si des seuils d'habitabilité de l'ensemble du territoire ont été dépassés. Il faut regarder si l'État a assez investi dans l'adaptation, dans l'atténuation, dans la réduction des risques. Quelle est en fait la capacité de ce pays à protéger ses ressortissants? Quelle est la capacité des gens de ce pays elles-mêmes, de ces personnes à agir? Donc, en fait, en se focalisant sur une idée très restreinte de statut de réfugié climatique, on peut arriver finalement à des résultats contradictoires avec ce qu'on souhaite faire. Donc, en fait, du côté du HCR, du Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR ne propose pas et ne soutient pas la création d'une nouvelle catégorie de réfugiés, car en plus, beaucoup de personnes seront, dans ce cas, bougeront à l'intérieur de leur propre pays, par exemple. Et, oui. Et encore une fois, c'est si difficile d'isoler les facteurs environnementaux. Cependant, on reconnaît l'importance des cadres qui existent et le cadre juridique de la Convention de Genève, le cadre juridique des instruments régionaux qui existent, les cadres régionaux, les cadres des droits humains, tous ces cadres ensemble permettent en fait de proposer des solutions. Et oui. En fait, cela permet d'utiliser cet héritage extraordinaire qu'on a de ces instruments pour répondre à des besoins contemporains en regardant vraiment le lien qui se fait entre le changement climatique, la dégradation de l'environnement, les problématiques des ressources et les questions de conflit, et les questions de violence, et les questions de persécution. Et c'est là où il y a une possibilité d'utiliser, en fait, de faire appel, de regarder l'applicabilité de toute cette du droit international de l'asile.
Et justement, là, je vais me tourner vers Thibault Fleury-Graff. Vous qui êtes professeur de droit public, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que déjà, ce serait extrêmement compliqué de créer légalement un statut de réfugié climatique, et est-ce que cela aurait une pertinence selon vous ?
Oui, merci beaucoup. Ce qui est certain, c'est qu'en effet, dans la Convention de Genève de 1951, on n'a pas de motif qui permettrait de protéger quelqu'un parce qu'il fuirait spécifiquement le changement climatique. La Convention est adoptée après la Seconde Guerre mondiale. On est loin à l'époque d'avoir en tête ces considérations-là. Donc, créer un statut spécifique supposerait soit d'amender la Convention de Genève de 1951 pour ajouter spécifiquement ce motif-là, soit, par exemple, adopter un instrument spécifique, un protocole à la Convention que pourraient signer les États qui le souhaiteraient. Dans les deux cas, c'est compliqué parce que dans le monde dans lequel on vit, on sent bien que d'une part, le multilatéralisme n'est plus très à la mode, malheureusement, et d'autre part, que amender la Convention de Genève serait sans doute plutôt une course à la réduction de la protection plutôt qu'à son augmentation. Donc, face à cette difficulté, et ce qui va sans doute être un statu quo pour longtemps, il faut en effet penser à d'autres choses. Et il y a plusieurs voies. Plutôt que celle de la création d'un statut spécifique où on pressent bien que ce sera très compliqué, c'est l'idéal, mais il faudrait évidemment beaucoup de temps pour ça, c'est d'abord avoir une interprétation de la Convention de Genève qui prenne en compte d'une manière ou d'une autre le changement climatique, puisqu'il y a des gens qui fuient spécifiquement des catastrophes qui sont générées par le changement climatique, mais comme ça a été dit juste avant, il y a aussi des personnes qui fuient des conflits armés qui sont générés par le conflit climatique, par le changement climatique. Les déplacements en Afrique de personnes qui ont besoin de faire paître leur bétail et qui pour cela doivent franchir une frontière, qui vont aller sur les terres d'autres communautés sont une réalité extrêmement prégnante. On a beaucoup parlé de Tuvalu, mais beaucoup d'autres continents qui sont très très touchés. Et là, le HCR incite à avoir une interprétation de la Convention qui prenne le changement climatique, non pas comme un motif en soi, mais comme un élément parmi d'autres, générateur de persécutions, qui vont être des persécutions politiques, ethniques et ainsi de suite, qui vont justifier une protection. Et puis on a par ailleurs, juste en deux mots, mais on pourra développer ensuite, beaucoup d'autres éléments qui se développent. Il y a un pacte en 2018 qui a été adopté, le pacte pour les migrations, qui évoque l'importance de prendre en compte les vulnérabilités créées par le changement climatique. Et puis même l'accord entre Tuvalu et l'Australie, d'une certaine manière, s'inscrit dans un cadre international. Ce pacte, d'ailleurs, de 2018, et puis une initiative qui a quelques années maintenant qui s'appelle l'initiative Nansen et qui recommandait justement la délivrance de visas pour les personnes dans ce type de situation.
Oui, mais alors là, je vais me tourner vers le côté des ONG. Baptiste Filloux, est-ce que vous, chez Oxfam, vous trouvez que justement les pays qui pourraient accueillir ces réfugiés climatiques en font assez à partir de ces bases juridiques qui commencent à exister?
Alors, avant d'appuyer sur ce bouton-là, moi, j'aimerais revenir surtout sur les causes. C'est-à-dire que, oui, aujourd'hui, on a des palliatifs. Il y a des choses qui existent. Il y a des conventions à portée régionale, comme Kampala, par exemple. Donc, effectivement, qui permettent de faire une petite partie du travail. Pour autant, si on ne reconnaît pas la cause réelle, en fait, des déplacements, on n'arrivera pas, en fait, à intervenir au cœur du problème. Et moi, je reviendrai tout à fait sur la proposition de Dina du HCR, parce que très clairement, effectivement, si on n'a pas de statut ou en tout cas quelque chose qui permette de reconnaître la pertinence du changement climatique dans le déplacement des populations, eh bien non, personne ne mettra de fond en fait dans des instruments d'observation fines, rigoureuses, la construction d'une expertise qui permette justement de faire la part peut-être des déplacés, qu'ils soient internes ou qui franchissent une frontière, liée au changement climatique ou non. Et finalement, où est la responsabilité? La responsabilité, elle est d'abord dans les émissions de gaz à effet de serre. Et d'où ça vient? En règle générale, et en très grande partie, pour 80% des pays occidentaux, ou en tout cas dits du Nord. Et donc là, en fait, il y a des leviers. Il n'y a pas simplement besoin de dire on a besoin ou pas d'un statut. Nous pensons vraiment que le statut permet de faire avancer les choses pour que derrière, on puisse réellement mettre en place des leviers financiers qui puissent atténuer cela et permettre aux populations qui le souhaitent de continuer à vivre sur les territoires qu'ils ou elles occupent. Voilà, mais ces financements, en fait, il faut il faudra en parler et il faudra les développer.
Oui, d'autant qu'il y a un enjeu quand même particulier sur la question des réfugiés climatiques. On a commencé à l'évoquer. La plupart du temps, les réfugiés ne partent pas d'un pays du sud vers un pays du nord, comme c'est le cas, pays menacé versus pays bien développé comme l'Australie. Très souvent, en fait, on va dans le pays voisin, on va dans le pays le plus proche. Dina Ionesco, la plupart d'ailleurs de ces déplacés liés aux crises climatiques, même si ce n'est pas exclusivement le climat qui les fait bouger, on les trouve en Afrique subsaharienne, en Asie de l'Est, dans le Pacifique. Est-ce que c'est des pays qui ont les moyens de prendre en charge seuls ces mouvements de population ?
Alors, je pense que c'est très important ce que vous venez de dire, de souligner combien, en fait, ces mouvements se passent en lien à la dégradation de l'environnement, à la question des ressources, aux changements très lents, aux aléas, aux problématiques aussi d'inondations, trop d'eau, pas assez. Eh bien, souvent, ces mouvements, il faut vraiment le remettre dans le contexte que d'abord, ils seront à l'intérieur même de leur pays. Et ceux qui traversent une frontière, il faut se rendre compte aussi qu'à chaque fois, on se retrouve dans des situations extrêmement complexes. Par exemple, on se rend compte que 84% des réfugiés qui ont fui des pays... des pays qui sont déjà affectés par le changement climatique. Et ils arrivent dans des pays déjà affectés par le changement climatique. 86% des Afghans ont cherché refuge en Iran et en Pakistan.
Qui sont parmi les pays les plus touchés.
Exactement. Et donc, on se retrouve dans cette situation où le changement climatique et ses effets néfastes arrivent tout le temps dans l'équation de la discussion, que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit des personnes qui traversent des frontières. Il y a beaucoup de choses auxquelles, et maintenant je pense, le HCR propose une analyse extrêmement fine en fait des différents éléments. Il y a l'analyse qui se développe maintenant aussi par rapport à la question de l'apatridie, qui touche aussi à nos discussions d'aujourd'hui, si certains pays risquent de disparaître. Mais on se rend compte que dans la question de l'apatridie, ça fait beaucoup avancer la réflexion internationale sur la question de la continuité de la nationalité et de la citoyenneté. Donc, comment, par exemple, proposer des solutions innovantes à un niveau politique pour que des personnes qui sont déplacées dans le pays et remises en cause, finalement, par le changement climatique, eh bien, ils continuent quand même à pouvoir garder leur nationalité, leur citoyenneté. Ça, c'est vraiment important. Oui. La deuxième chose que je voulais rajouter et qui a été mentionnée juste avant, c'est qu'on parle des deux côtés d'une même médaille. Il y a d'un côté les politiques de la mobilité, mais de l'autre côté, il y a les politiques du climat, de l'environnement, oui, de la désertification, de l'eau. On ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Parce que, et ça, c'est le travail qui a été fait toutes ces 20 dernières années à un niveau international, à un niveau régional, à un niveau local, c'est d'intégrer une compréhension de l'environnement dans les politiques de l'asile, de la migration, du déplacement, de la relocalisation, de l'évacuation et vice-versa, intégrer la pensée du déplacement dans les politiques du climat. Et c'est ce qui se passe au niveau des négociations du climat, où on se retrouve avec une vraie réflexion sur, et des solutions donc, sur la question des déplacements, dans les pertes et dommages, dans l'adaptation, dans l'atténuation. Donc les solutions en fait et les responsabilités viennent des deux côtés de cette monnaie, mobilité, oui, et climat, et ne peuvent d'une certaine façon pas être séparées. Et dans les dynamiques dont vous parliez au niveau donc migratoire, quand on traverse les frontières, on regarde énormément maintenant en fait la dynamique des routes migratoires, toute une approche axée sur les itinéraires où on essaye de suivre la complexité des mouvements qui sont très de mixtes en fait, de réfugiés ou de migrants. Donc on essaye d'avoir une vision qui connecte cette dynamique aux solutions en fait qui sont proposées aussi bien au niveau juridique, aussi bien au niveau des politiques de la migration, aussi bien des politiques de la nationalité, de la citoyenneté, aussi bien au niveau des droits de l'homme, le développement durable. Nous sommes dans un tout en fait. Oui. Et si on regarde qu'une toute petite partie, on se retrouve avec une vision très morcelée, en fait, aussi des responsabilités.
Oui, il faut avoir une vision globale du problème. Il faut aussi voir qui en fait est responsable au départ de ce dérèglement climatique qui a ses conséquences dans les pays les moins développés. Thibaut Fleury-Graff, vous vouliez réagir?
Oui, merci beaucoup. Alors peut-être un mot sur la question de la responsabilité que vous venez d'évoquer. Sur la question en droit international, elle est assez compliquée puisque un argument qui est souvent mis en avant et qui a en effet un certain nombre d'aspects qui sont justes, c'est comment identifier quel État est responsable de ce changement climatique. Il y en a beaucoup, c'est pas un seul État, c'est plusieurs États. Néanmoins, un avis important qui est attendu de la Cour internationale de justice sur les obligations des États en matière de changement climatique, et il pourrait y avoir dans cet avis des éléments importants sur la question qui nous intéresse aujourd'hui par rapport à la protection des personnes qui fuient ce changement climatique et par rapport également à ces questions de finalement de justice internationale. Les États les plus pollueurs, on peut comprendre et on peut espérer que ce soit ceux qui protègent le plus.
Ou qui investissent en tout cas pour aider les...
Et qui investissent absolument pour aider à la fois les États
touchés à lutter
contre
résilient.
Les conséquences, tout à fait.
Et à prendre en charge les réfugiés.
Par ailleurs, par rapport à ce qui était dit auparavant sur le statut, évidemment que je suis d'accord, c'est évident, il faudrait à terme un statut spécifique pour ces personnes, ce serait l'idéal. C'est un long plaidoyer qui va prendre énormément de temps, mais on a déjà des instruments qui permettent de prendre en compte ces différents aspects, cette approche globale dont il était question juste avant. Et je vous renvoie ici, j'envoie les auditeurs que ça intéresse, à un rapport de 2023 du rapporteur spécial des Nations Unies sur ces questions-là, qui met justement en avant tous ces aspects et qui déjà, alors même qu'on n'a pas ce statut, insiste sur l'importance d'élaborer des dispositifs financiers, de soutien aux personnes déplacées, d'encourager les États à mettre en place des visas humanitaires, d'encourager les organisations régionales à intégrer ces questions dans leur ordre juridique. Et à ce titre-là, la convention de Kampala, adoptée par les États africains sur les déplacements internes, est extrêmement intéressante. De même d'ailleurs que les politiques, les lignes directrices de la position commune africaine sur le changement climatique sont déjà des instruments utiles pour aider les États à prendre en compte cette question.
Et qu'est-ce qu'ils prévoient justement ces textes concrètement ?
Alors, ces textes, pour l'instant, et c'est là où évidemment on peut trouver que c'est assez léger, sont des recommandations, ne sont pas des instruments juridiquement contraignants, en tout cas pour ce qui est de la position commune africaine sur le changement climatique. Mais on a ce lien entre le fait de lutter contre la dégradation de l'environnement et les déplacements climatiques. Et donc, le fait de prendre en compte, dans le cas, par exemple, des réfugiés en situation de déplacement prolongé, les raisons de ce déplacement et de leur offrir une protection. Et par exemple, de pouvoir intégrer ces personnes dans la protection qui est offerte par le HCR. Et puis, un encouragement pour les États à mettre en œuvre dans leur politique nationale des solutions de protection spécifiques pour ces personnes-là, pour prendre en compte leurs besoins et leurs vulnérabilités, parce que ce sont souvent des personnes qui auront vu leur habitat détruit, les terres sur lesquelles elles avaient l'habitude de cultiver détruites et ainsi de suite. Et puis un dernier point qui a été vraiment une évolution pour le coup qui est juridiquement contraignante, pour le dire simplement, qui est une incitation importante pour les États.
Donc on n'est pas encore sur la contrainte très forte non plus, mais on s'en rapproche.
Sur la contrainte très forte.
Et c'est déjà pas mal, me diriez-vous, dans un contexte international complexe.
Oui, absolument. Et puis, c'est une décision du Comité des droits de l'homme des Nations Unies qui date de 2019, qui est une affaire Tetiota contre Nouvelle-Zélande, sur le fait que les États ne peuvent pas refouler un étranger vers un territoire où il y aurait des risques pour la vie de cette personne du fait des conséquences du changement climatique. Et ça, cette décision a vraiment marqué un tournant à la fois dans l'évolution du droit international sur cette question et dans la prise en considération par les États de l'importance de cette question et du fait qu'ils vont y faire face très concrètement, comme la Nouvelle-Zélande y faisait face dans cette affaire. Là où il peut y avoir une déception, c'est qu'en 2024, l'Union européenne a adopté un ensemble de textes qui réforment son système d'asile et de migration et que le changement climatique est très, très, très loin d'être pris en compte par ces textes.
Oui, Dina Ionesco, ces textes que vient d'évoquer Thibaut Fleury-Graff, qui ne sont pas encore donc des textes juridiquement contraignants, mais qui commencent à tracer des lignes directrices, est-ce qu'elles sont satisfaisantes de votre point de vue?
Alors, si on regarde l'historique de tout tout ce thème, en fait, de toute cette prise de conscience de la, du déplacement dans le contexte du changement climatique, c'est un chemin, ça prend du temps. On se retrouve dans des situations extrêmement sensibles et complexes, donc ça n'avance pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Mais
ça n'avance pas aussi vite que le dérèglement climatique.
Totalement, malheureusement, et qui ne connaît pas de frontières, alors qu'on parle éminemment de quelque chose qui traverse les frontières. On parle des visas dans notre débat aujourd'hui. Mais ce que je souhaitais dire, c'est quand même, si on est plongé dans le monde des négociations du climat, si on est plongé dans ce monde des instruments juridiques qui évoluent, on voit quand même un vrai changement. Donc moi, je veux quand même donner une impression d'espoir ici, parce que je vois un vrai changement. On a de plus en plus de cas particuliers qui font avancer le droit. Donc il y a par exemple cet exemple donné tout à l'heure sur l'affaire Kiribati-Nouvelle-Zélande, où finalement la personne n'a pas eu un statut de réfugié, mais a obtenu quand même sur une base humanitaire le droit de rester. On a d'autres cas qui sont passionnants. Maintenant, on a un cas aussi de la Cour de cassation italienne qui a accordé à une protection humanitaire aussi à un homme originaire du delta du Niger, aussi en raison de l'existence de risques réels pour ses droits à la vie et à une existence digne dans la région. Donc, on commence à avoir de plus en plus d'exemples. Il y a aussi le droit à un environnement propre. Il y a cette première audience aussi de la Cour internationale de la Haye au sujet des responsabilités des États face au changement climatique. Il y a des avancées. Et je pense qu'il faut aussi regarder qu'il y a énormément d'avancées au niveau des politiques de prévention, en fait, ou de préparation, c'est-à-dire ne pas attendre qu'un déplacement forcé arrive, mais essayer de créer des solutions avant. Par exemple, il y a l'Afrique de l'Est qui, dans son protocole pour le mouvement des populations, la libre circulation des personnes, maintenant a intégré une dimension des catastrophes et du changement climatique, ce qui fait que si quelque chose arrive, eh bien les personnes à un niveau régional pourront bouger quand même de manière libre et déjà organisée.
Ouais, donc des avancées. Je désolé beaucoup, mais parce qu'on approche la fin du débat, j'aurais donné la parole une dernière fois à Baptiste Fillou de l'ONG Oxfam. Est-ce que vous partagez cet optimisme de Dina Ionesco sur le fait que, mine de rien, les choses avancent quand même, brique par brique, mais ça avance?
Les choses avancent, mais vraiment pas assez vite. Vraiment pas assez vite. Là, on est en train de déplacer les orientations qui étaient prévues par le GIEC. Et si on regarde un petit peu le dernier cycle de rapport, le sixième de cette instance, on voit qu'il y aurait plus de 3,6 milliards de personnes concernées dans le monde par les effets du changement climatique à venir. Donc non, ça avance pas assez vite. Oui, il faut aller beaucoup plus vite. Oui, il faut parler pertes et dommages.
Et
oui, il faut parler responsabilité. Oui, il faut aussi quelque chose de contraignant au niveau multilatéral, parce que sinon, ça n'avance pas ou trop peu. Et oui, le multilatéral, c'est compliqué, mais c'est la voie.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois pour ces éclairages sur cette question. Baptiste Fillou d'Oxfam, Thibaut Fleury-Graff, professeur de droit à Panthéon-Assas, et Dina Ionesco du HCR. Réfugiés climatiques, le droit international est-il prêt pour leur accueil? Vous l'aurez compris, on avance. Peut-être pas assez vite. Reste à voir ce que vont donner les prochaines négociations. Merci également à Arnold Assoa et Florence Pons pour la préparation de ce débat. Dans quelques instants, ce sera le Grand Journal du Soir. Suivi, une demi-heure plus tard, d'Afrique Soir. Quel est le programme, Zéphirin Quadio?
Bonsoir Diane, bonsoir à tous. Un rapport d'experts de l'ONU qui défraie la chronique, hein, une semaine seulement après la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Un rapport qui revient, bien sûr, en détail sur la présence militaire du Rwanda sur le sol congolais et sur le soutien apporté à la coalition AFC-M23, notamment lors des prises des villes de Goma et de Bukavu. Il a été rendu public ce mercredi et RFI a pu le consulter. Et puis nous parlerons aussi, Diane, hein, de la confirmation de la condamnation du Premier ministre sénégalais par la Cour suprême, condamnation qui lui a valu d'être inéligible à la dernière présidentielle, décision que Ousmane Sonko et ses avocats n'apprécient guère. Enfin, nous irons aussi au Mali, où on en sait un peu plus sur les attaques menées hier militaire dans les régions de Kaï et de Ségou, le long des frontières du Sénégal et de la Mauritanie. Une opération coordonnée attribuée au JNIM, groupe lié à Al-Qaïda. Dossier signé David Bachet.
Merci beaucoup Zéphirin Kouadio, que l'on retrouve, donc vous retrouve avec toute l'équipe d'Afrique Soir dans une demi-heure sur RFI. Et puis dans quelques instants, ce sera donc le grand journal international du soir présenté par Christophe Paget. On ira en Ukraine dans quelques instants pour parler de la fin de livraison de certaines armes américaines à Kiev. On vous explique tout dans quelques instants, donc restez à l'écoute de RFI. Merci aussi à Alexandre Kawela dans la régie qui était là avec nous pour gérer nos invités à distance pour ce débat.